vendredi prochain, il y a une fondation qui va mettre aux enchères un collier.
On va le voler.
Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire.
Viens, faut que je te montre un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour un Arsène Lupin.
Alors, c'est une série française, là, une production française diffusée sur Netflix. Lupin, évidemment, en allusion à ce classique de la littérature et de la télé française, Arsène Lupin.
Oui, et c'est la série la plus populaire en ce moment ici, en France également, et aussi aux États-Unis. Et c'est la première fois...
Aux États-Unis?
Oui, bien, c'est la première fois qu'une série française pour Netflix est aussi populaire outre-mer et aussi aux États-Unis. Bon, évidemment, on se rappelle Marseille. C'est jamais aussi bon que Marseille. Avec
Gérard.
Oui, notre bon Gérard. Donc, c'est Hassan qui est depuis l'enfance un grand fan des histoires d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Il va s'inspirer donc de son héros pour venger son père, qui a été injustement accusé de vol d'un bijou de grande valeur qui appartenait à une famille riche. Je vous propose d'écouter un court extrait de qui est réellement Lupin.
Arsène Lupin a de multiples talents. C'est un maître du déguisement. Il est capable de changer d'identité en un instant. Ne faites jamais confiance à Arsène Lupin. D'ailleurs, son nom n'est peut-être pas Lupin. En vérité, ses noms sont innombrables. Ses talents extraordinaires, Lupin les utilise pour commettre ses larcins. Aucun obstacle ne peut contrecarrer ses plans. Mais son plus grand talent, sans aucun doute, c'est d'avoir toujours un coup d'avance.
Donc, on n'a pas recréé le personnage comme tel d'Arsène Lupin. Les scénaristes ont plutôt inséré dans le scénario soit des liens avec les histoires qui viennent des livres, les tactiques, les déguisements, la lutte contre la bourgeoisie. Et comme Lupin, Hassan est capable de changer de costume rapidement, de sauver sans se faire prendre. T'sais, vous me voyez, mais vous ne me regardez pas. Ça revient souvent aussi comme phrase. Moi, j'ai été agréablement surprise parce qu'au départ, quand la série est sortie sur Netflix, t'es pas trop intéressé. Et tu m'en as parlé, j'ai visionné les 5 épisodes et j'ai beaucoup aimé l'intrigue, notamment parce que c'est bien monté, avec l'action, la musique aussi rétro, le style. J'ai aimé l'intrigue également avec la quête plus personnelle d'Hassan. Et Omar Sy, qu'on a vu dans Les Intouchables, est remarquable. Je l'ai trouvé qu'il était très juste, par moments touchant. Il est aussi empathique envers les plus faibles. Il y a un petit peu de longueur, surtout sur le dernier épisode, mais manifestement, il va y avoir une suite.
Ça, c'est clair.
On le voit dans le dernier épisode, mais ça reste un excellent divertissement. Et en 5 épisodes, je trouve que c'est parfait comme série sur Netflix. Alors, c'est Lupin.
Oui, moi, j'ai trouvé que c'était un bon passe-temps. Ça m'a pas passionné.
Non.
Là. Mais, écoute, de ce temps-là, là, on prend ce qui passe. Non, mais je veux dire, c'est comme... Non, mais c'est une série, là. T'as raison, là. 5 épisodes, là, ça se consomme bien.
C'est parfait.
Puis, il y a beaucoup d'action. Et c'est vrai que sur le plan visuel, c'est très riche, très beau. Le Louvre, par exemple. Puis bon, intéressant. Puis les scènes de nuit là, qui ont été...
Ça me faisait penser un petit peu au style Ocean Eleven avec George Clooney.
Oui,
dans
c'est
le
vrai.
Genre, là,
c'est vrai.
Un peu comme ça. Ouais.
Un documentaire sur les cultes religieux des enfants oubliés.
C'est une nouveauté du Club Illico. C'est Marie-Claude Barrette qui s'est intéressée donc, aux centaines d'enfants québécois qui grandissent dans des groupes religieux fermés, des enfants qui n'ont pas choisi d'être là. Et moi, ce qui me fâche en regardant le documentaire, c'est qu'au Québec, on n'a pas de recensement sur le nombre de communautés religieuses fermées, donc des sectes, et encore moins sur le nombre d'enfants qui sont à l'intérieur. Donc, on a donné la parole aux victimes qui ont grandi dans ces milieux extrêmement durs, avec peu ou pas d'éducation, très violents. Aussi, on parle d'agression sexuelle également dans certains cas, comme Myriam Kayser, qui est arrivée de la Belgique à 2 ans et tout de suite qui a été séparée de sa famille.
Les petits-enfants sont dans une place avec des éducateurs. Éducateurs. Ici, il faut bien comprendre qu'il n'y a rien qui élève l'enfant. On est dompté sous terreur. Puis, où est-ce qu'ils sont mes parents? Au début, j'en sais rien.
Ouais. Tu sais, on t'a battu souvent.
Beaucoup.
C'est pas de tes parents, c'est des étrangers.
Ouais. Battu, là, pour plus marcher. Battu pour être dans mon lit puis faire de la fièvre. Battu pour être bleu partout.
Et là, on dit, bon, ça fait plusieurs années que c'est arrivé pour Myriam, mais il y en a encore aujourd'hui. On revient évidemment sur la secte de Moïse Thériault, les témoins de Jéhovah également, certains qui ont réussi à s'en sortir. C'est troublant, puis j'espère que ça peut faire bouger les choses parce que ça fait longtemps qu'on en parle, de tous ces cultes religieux. On sent pas que ça change beaucoup ici avec le gouvernement du Québec. Et qu'un adulte décide d'en faire partie, c'est une chose, mais un enfant, c'est une autre chose. Je pense qu'il faut les protéger énormément là-dedans. Donc, le documentaire, c'est « Culte religieux des enfants oubliés ». C'est en 2 parties sur le Club Illico.
Et la dernière proposition, c'est « La cour est pleine » sur tout.tv.
Oui, et là, c'est pas une émission de rénovation ordinaire. C'est le rêve de l'acteur Jean-Nicolas Véro, sa conjointe Jenny Carina, de construire une mini-maison dans leur cour pour les aider à souffler avec leurs 3 filles qui ont des besoins particuliers, 3 magnifiques magnifique jeune fille qui souffre de TDAH, autisme, syndrome Gilles Latourette, syndrome de Nagère, troubles d'apprentissage. La liste est longue. C'est essoufflant pour les parents. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont se reconnaître dans cette famille parce qu'on cache pas les difficultés. Moi, je les ai trouvés très généreux de parler sans pudeur sur leur réalité. Puis là, à un moment donné, même Jean-Nicolas Véro, il dit, tu sais, on n'est pas cheap, mais on a besoin d'argent, on a besoin de cette mini-maison-là. Et je vous laisse entendre justement un moment où, Jean-Nicolas, on sent l'angoisse monter.
Mais oui, ça me stresse parce que, bon, en partant de mon réflexe, moi, souvent, quand des choses ne fonctionnent plus, c'est de tout arrêter. C'est comme, non, moi, je suis pas en mode, il faut trouver absolument une solution. C'est comme, ben regarde, ça marche pas, on arrête ça. Ça va faire, on va pas se mettre ce stress-là. Ça m'a déjà mené à l'hôpital, du stress, d'anxiété. Je suis toujours bien juste acteur. Les années, ça va super bien. Les années, ça va moins bien, tu sais. Dans ma vie, ça, l'anxiété me gèle. Fait que pour certains, ça devient moteur. C'est comme, OK, on va cogner à 12 portes. On va faire ci, on va faire ça. Moi, à un moment donné, je deviens dysfonctionnel.
Et c'est rare qu'on entende de personnalité ce genre de discours de façon aussi authentique. Et je pense que ça peut aider beaucoup de parents dans la même situation. Alors, la cour est pleine, c'est surtout.tv.
Merci. Il est 6h31.